Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Encore bonne année à ceux qui ne l'auraient pas entendu. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, des vampires, des chats de l'espace, mais pas tout à fait, une interview et d'autres lectures. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure. J'espère que nous passerons un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par Jean-Mathias Xavier, l'auteur de Space Kittens, qui nous parlera de son travail pendant la deuxième partie de l'émission. Bonsoir Jean-Mathias.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir Seb.
Merci d'être avec nous, comme je le dis, on en reparlera juste après la pause musicale. Si tu veux intervenir avant, faut pas hésiter, hein, y a pas de souci. Le but c'est que ce soit participatif.
Avec plaisir.
Alors, on commence ce soir avec un tour d'horizon de la plateforme manga.io, qui est une jeune plateforme de lecture légale de manga en version française. Tu lis du manga un petit peu ?
Un petit peu, oui, quand même pas mal même.
Alors, faut que tu parles un petit peu plus près de ton micro. Hop.
Comme ça, c'est pas mal.
Là, c'est pas mal. T'en lis pas mal ?
Oui, j'en lis certains. J'aime bien Sunken Rock, par exemple.
Ok, plutôt coréen, ça.
Mais c'est un manga en même temps. Ça, c'est comme maintenant il est édité chez les Japonais.
Ouais. Eh bien, manga.io, c'est une plateforme de lecture légale de manga en VF. C'est une sorte de Netflix du manga. Oh. Où, pour un abonnement mensuel ou annuel, on bénéficie d'une liste de mangas consultables en manière illimitée. C'est une plateforme qui bénéficie déjà de soutien de 11 acteurs de la sphère du manga française. On a Kana, Kihun, Akata, Yanaban, Black Box, Kotoji, je ne vais pas toutes les citer, mais ça fait déjà une pléthore de mangas qu'on peut consulter, et ce qui permet de lire en illimité une sélection de mangas connus ou à découvrir pour un tarif qui correspond au coût d'un volume neuf. En fait, l'abonnement mensuel est à 6,90€.
C'est génial.
Donc c'est plutôt sympa, plutôt que d'aller faire prendre du scantrad pas forcément bien fait, ben là on a quelque chose de super efficace et qui est plutôt adapté. Bon, avouez que si vous êtes adepte de la lecture sur écran ou un gros consommateur, c'est plutôt alléchant. Alors, pour ma part, je suis plutôt lecteur sur tablette parce que j'ai les yeux un peu trop faibles pour lire sur smartphone, et puis que mon PC, j'ai un petit peu compliqué à déplacer pour la lecture dans le bus.
Oui, et puis lire sur un téléphone, c'est pas ouf quand même.
C'est ça.
Au niveau du détail.
Non, c'est pas fun, ouais. Pour le moment, la plateforme propose peu d'options de lecture, mais elle compte sur sa communauté pour proposer des idées qui sont classées par ordre de priorité de développement. Là, pour l'instant, par exemple, il n'y a pas possibilité de zoomer sur les images, mais ça fait partie des choses qui ont été proposées par la communauté et qui vont arriver dans les... ça va être développé justement par la plateforme. C'est une plateforme, donc, qui est lisible sur internet. On se connecte au site manga.io et on peut avoir accès à tous les mangas. Et à partir du moment où vous avez créé un compte, vous pouvez l'utiliser à la fois sur smartphone, tablette. Il n'y a pas de nombre illimité de support. La plateforme propose déjà beaucoup de titres et je vous ai préparé une petite sélection de ce que je considère comme des incontournables en fait à découvrir directement sur la plateforme. Il y avait Old Boy. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
Donc c'est l'histoire, c'est un thriller violent, sans concession, qui suit la quête de vengeance d'un homme qui a été emprisonné dans une toute petite pièce pendant 10 ans, sans explication. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il sort, et lui, il veut comprendre, et il veut de la vengeance.
Oui, il est bien furax.
Ouais, il est bien furax. Il y a eu un film qui avait été créé par, j'ai perdu le nom du réalisateur, qui avait été vraiment, qui avait beaucoup plu, film coréen. Et c'est l'occasion de découvrir dans le format d'origine l'histoire qui a permis de faire ce film, qui était publié aux éditions Naban. Je continue avec l'excellent Assassination Classroom qui était publié aux éditions Kana. Pareil, est-ce que
oui.
tu connais ?
Oui, oui.
Déjà mieux ? C'est... Alors, tu veux résumer un petit peu ou
Bah, j'ai lu en fait en transversal comme ça en fait, mais c'est bien les. C'est, ça parle bien en fait de cette espèce d'extraterrestre jaune,
tout
étrange.
À fait.
C'est et la classe en fait où les mômes en fait doivent devenir en fait des méchants et tout ça, je crois, c'est quelque chose.
Alors,
comme
ils
ça.
Viennent pas des
Donc,
méchants.
Des assassins en fait.
Ouais, c'est ça. Ils viennent
ils
des assassins.
Pour devenir des assassins.
C'est une classe
et
de.
C'est
cancre.
Assez étrange parce que l'extraterrestre est bizarre. Il a une espèce de poule bizarre. C'est. C'est plutôt bien dessiné. Bah en fait, c'est souvent en fait quand je regarde un manga, c'est aussi parce que j'aime bien le design aussi. Donc
Bah là, on a un design qui est très particulier. Ah, oui. Effectivement, le personnage principal, c'est une espèce d'extraterrestre jaune, une espèce de Pac-Man avec des tentacules en fait, si on pourrait le résumer comme ça. Et en fait, il va devenir prof d'une classe de cancres qui ont été mis à l'écart dans une salle spécifique. Et tout en leur faisant la classe d'une manière inédite. Il va leur apprendre à assassiner. Le but ultime étant que ces élèves-là arrivent à l'assassiner, lui. Et oui, ça, autant vous dire que ça, c'est pas chose gagnée parce que il se déplace à une vitesse supersonique, il est capable de créer des clones comme de lui, comme Naruto. Enfin, c'est un truc un peu dingue. C'est une pépite. Vraiment, j'adore ce manga et bah, vous pourrez les retrouver. Si vous n'avez pas vu, il y a aussi une série d'animés qui a été faite et qui est vraiment bien. Donc, faut pas hésiter. Et puis mon troisième choix se porte vers Le mari de mon frère, qui était publié chez Akata. Là, on est sur un manga qui est hyper tendre, où un homme accueille chez lui le mari homosexuel de Feu, son frère jumeau. Ce mari a décidé de faire un voyage initiatique dans la terre de naissance de son ex-concubin décédé. Et bah, cet homme, le héros, le connaît pas beaucoup en fait, et il sait pas vraiment comment se comporter avec lui. Mais il peut compter sur sa fille, Kana, qui du haut de ses... elle doit avoir entre 6 et 8 ans, j'ai pas vraiment sûr. Et ben, avec ses yeux, sa candeur d'enfant, elle saura simplement accueillir cet oncle comme un oncle qui vient d'ailleurs, sans forcément considérer comme bizarre. C'est un manga qui est plutôt touchant, vraiment agréable à lire, avec un design qui est plutôt cool. Et on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans une chronique d'une précédente émission au moment de sa sortie, donc ça commence à dater. Mais c'est vraiment un super manga aussi. Et ça, ce sont que trois exemples d'une offre qui grandit de jour en jour, avec de nouvelles annonces très prochainement, de nouveaux partenariats avec d'autres éditeurs de manga pour étoffer le catalogue de manga.io. Et puis parce que vous êtes des fidèles auditeurs et auditrices, et puis que j'aime vous faire plaisir, et que souvent les portefeuilles sont un peu ternes une fois les fêtes passées, et bien avec manga.io, on vous a réservé une petite surprise. Les deux premières personnes à se manifester sur la page Facebook ou Instagram de la case de Seb se verront octroyer un mois gratuit sur la plateforme.
Sympa.
C'est un mois offert, sans condition, ça se refuse pas. Alors si vous n'avez pas la chance d'avoir ce mois gratuit, sachez qu'il y a quand même une offre d'une semaine avant abonnement qui peut être utilisée. Donc ça permet de découvrir quand même quelque chose. Puis si vous êtes un gros lecteur, de condenser une grosse série. Et puis si vous êtes sage, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être refaire, mais il va falloir être très sage. Parce que voilà, je négocie fort. Hein,
je suis
quand même...
sage.
Et ben pourquoi pas. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Suburban et la chanson Par Amour avec Aurora qui a filé un coup de main.
Tell me, is your father a good man? It's surprising how little he seems to understand. His daughter was my savior.
Sure, she can be a decisive. But I don't have to make her choose, cause
this is how it goes. Watching it unfold, playing my own role. Dum dum diddy dum dum diddy daddy, don't make me leave this home. This is what you chose, I can't let him go.
In our house, the quiet is so loud, I never hear a single word you wanna shut down. Oh, God, you're just a child.
rather a good man. It's surprising how little he seems to understand. His daughter was my savior.
She can be act indecisive.
This is how it goes. Watching it unfold. Playing my own role. Down, down, diddy, down, down, diddy, daddy. Don't make me leave this home. This is what you chose. I can't let him go. Down, down, diddy, down, down, diddy, daddy.
Retour sur le 101.5 de Radio G avec la caisse de Seb. C'était Suburban avec la chanson Paramour avec Aurore. Ou alors c'était Paramour avec la chanson Suburban. Je suis pas sûr. Je suis de retour avec Jean Mathès, Xavier, où on va parler un petit peu plus de toi. On va parler un petit peu de ton parcours et puis de Space Kittens et puis de l'actualité que tu peux avoir aussi avec Space Kittens. Est-ce que tu peux te présenter ? Qui tu es ? Alors déjà, juste ton cursus basique, et puis après on va venir comment tu en es venu à la BD.
Mon cursus basique, disons que ça serait long, parce que j'ai un long cursus, mais on va faire simple. En fait, j'ai d'abord commencé à travailler dans le dessin animé, quand j'étais jeune, et puis ensuite, après, je suis devenu réalisateur de bande-annonce pour le groupe Kazé. Et puis, j'ai toujours été baigné dans le dessin, dans le dessin. Très très jeune, hein, donc à partir de 18-19 ans, aussi bien par la télé, les bandes dessinées, puis forcément j'avais envie de travailler dans ce milieu-là. Et puis il y a quelques années, maintenant il y a un peu plus de 10 ans, j'ai décidé de mettre à mon compte et de devenir en fait illustrateur et aussi réalisateur de bandes annonces. Ce qui m'a amené en fait à développer en fait ma créativité encore plus que je le faisais déjà, de manière très personnelle, et puis avec des auteurs et des gens très intéressants, des éditeurs, et voilà. Et aujourd'hui, je vis de mon travail, et c'est génial.
C'est vrai que c'est vivre de son travail, c'est quand même le graal de beaucoup de gens.
J'ai beaucoup de chance, voilà. C'est disons que c'est vraiment tous les jours. À chaque fois, je me dis, je me lève et je me dis, j'ai vraiment de la chance. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est vrai qu'il y a aussi une chose que j'ai envie toujours de dire quand on me pose la question, c'est il faut se battre pour son ambition et ne rien lâcher. En fait, finalement, après, ça demande beaucoup, évidemment, aussi d'investissement et beaucoup d'heures de travail aussi à dessiner et ne jamais rien lâcher. Donc, parfois, ça veut dire il faut lâcher aussi. Comme tout le monde, hein, j'ai aimé jouer à la console, avoir des copains, des copines, des fêtes et tout ça et tout. Et puis, il y a eu des fois où il a fallu faire un peu l'impasse là-dessus pour pouvoir justement avancer sur des projets et des choses en fait qui étaient beaucoup plus professionnelles. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner la première fois ?
Oh, alors c'est très intéressant. J'étais tout petit encore, hein, j'avais 7 ans et ma mère, qui était déjà très penchée sur tout ce qui était le domaine artistique, est venue avec un artbook, donc un livre d'art en fait d'un peintre qui s'appelle Frank Frazetta, et elle m'a montré en fait ses illustrations et elle m'a dit regarde, ce type fait des trucs géniaux. Et donc Frank Frazetta, j'ai regardé. Alors j'avais pas du tout l'âge de regarder les illustrations de Frank Frazetta parce que c'est plutôt violent et que c'est une certaine musculature, des femmes hyper charnues, sensuelles, et il y a en même temps une beauté aussi, mais c'est un peintre incroyable. Et j'ai regardé ses illustrations et j'ai fait waouh, je voudrais dessiner comme ce mec, comme cet homme, comme ce monsieur. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que au même moment, j'avais 7 ans, donc est sorti Star Wars, et dans la même période, vous savez, quand on est gamin, il y a eu aussi tous les le dessin animé Goldorak qui est arrivé avec Sankukai et tout ça. Donc j'ai été, on va dire, baigné dans une période en fait vraiment, on va dire d'une certaine manière, où il y avait tout d'un seul coup et ça nous explosait en pleine figure. Et c'est ça qui m'a donné envie, quoi, parce que aussi bien j'avais envie de dessiner les Chasseurs X ou Darth Vader, que j'avais envie de dessiner Goldorak, et puis je voulais aussi dessiner au fait des super héros comme ceux qu'il y avait dans les comics que mon frère achetait, Captain Marvel, Spider-Man, La Chose, Hulk, c'était incroyable. Et ma mère était complètement folle, mais très rigolote parce que c'est un peu une sorte de geek alpha. Et elle nous achetait en fait des carrément des comics en anglais, même si on comprenait rien, on lisait on regardait les images parce qu'elle trouvait ça trop marrant et trop cool et rigolo. Donc encore aujourd'hui, je la remercie beaucoup de m'avoir toujours. Elle a senti peut-être, tu vois, que j'avais envie de dessiner. Et puis de toute façon, comme je faisais des jeux à la maison et que je faisais n'importe quoi, elle me disait écoute, tiens, on a marre là, amuse-toi, fais-moi un truc bien, tiens, dessine-moi un dragon qui attaque un bateau. Je fais ah ouais, un bateau de viking. Oui, très bien, vas-y. Alors moi, du coup, j'ai dessiné un dragon qui attaquait un bateau de viking. Et puis bah du coup, c'est comme ça que ça en est, j'en suis venu à dessiner.
Et du coup, tu as ton dessin, c'est vraiment autodidacte ou tu as eu une école de dessin ou tu as une formation de dessinateur quelque
c'est
part?
C'est très compliqué de dire qu'on est autodidacte parce que ça voudrait dire en fait que... Alors, j'ai pas eu de formation dans une école à proprement dite, hein. Donc voilà, j'ai pas fait par exemple les gobelins ou des choses comme ça, c'était pas trop l'époque. Même si ça commençait un peu à émerger. Mais j'ai eu plusieurs, en fait, des rencontres surtout, en fait, qui ont été formidables pour moi. Et des gens, en fait, qui faisaient partie, un petit peu comme quand vous allez en convention aujourd'hui, alors c'était pas le cas à l'époque, mais j'ai rencontré des illustrateurs et des personnes, en fait, qui m'ont donné des conseils. Et c'était parfois, on va dire, presque comme un conseil, mais celui-là, c'était clac, tout de suite, ça allait, quoi. Par exemple, je me rappelle d'un gars qui s'appelait Olivier, qui m'a dit, Olivier Hugues, qui m'a dit, quand tu fais un comics, il faut que le personnage soit shakespearien. Il faut qu'il soit, en fait, vraiment très théâtral, parce que tu vois, ton image, elle est figée, donc il faut que le personnage, il soit en mouvement. Parce que je lui montrais mes premières planches de BD, j'avais 16 ans, faut imaginer, hein. Le gars, il avait déjà un peu de level. Enfin, il avait du niveau, pardon. On va parler en français. Et donc, il me dit ça, et là, ça a été un déclic, c'est-à-dire que d'un seul coup, toutes mes poses, toutes mes actions, tous mes personnages, d'un seul coup, étaient beaucoup plus dans des situations. Il m'a montré ça, évidemment, avec force et gestes, et puis avec des exemples de John Byrne ou d'autres références, en fait, du comics de l'époque. Et d'un seul coup, ça a fait tilt, parce qu'on peut vous montrer un comics, vous dire « Ah, tu devrais dessiner comme ce gars », mais si on ne vous explique pas pourquoi, on ne vous pouvait pas comprendre. Or, comme le dessin il est figé, il faut qu'en fait l'œil puisse faire la transition entre chaque case, et donc dans la pose ou dans l'action ou dans l'intention, il faut qu'on sente en fait le surjeu en fait de personnage qu'on a dessiné. Si c'était animé ou si c'était en live, on se dirait mais il joue trop, le gars il en fait des caisses. Mais au final, comme là le dessin est figé, c'est important en fait justement de pouvoir faire ça. Et c'est là en fait que ça devient intéressant, parce que c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai avancé tout le temps. Alors, c'est autodidacte, parce que j'ai pris plein de bouquins, plein de choses, en fait. Forcément. Mais aussi avec beaucoup de profs, en fait, du moment, en fait, sur des instants présents, comme ça, tac. Et puis, ça arrivait, et là, d'un seul coup, ça me faisait évoluer, quoi.
Des moments, en fait, où tu comprends quelle est la dynamique d'un dessin et quel est pourquoi ça rend ce dessin intéressant, en fait.
Exactement. Des clés, en fait. C'est-à-dire que t'es bloqué sur un truc, tu dis, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi, est-ce que j'arrive pas à comprendre les plis, des fringues et tout ça. Et puis d'un seul coup, tac, tu rencontres quelqu'un, ou même la perspective, par exemple. Je me rappelle rentrer dans mon premier job de dessin animé, où j'avais très bien réussi mon test, et j'ai rencontré un gars qui était formidable, qui s'appelait Robert Saint-Pierre. Et le type a vu que j'avais vraiment du style au niveau de mon trait. Mais par contre, j'étais nul, mais alors d'une nullité, mais genre à zéro, hein, au niveau perspective. Il m'a dit, tout en américain, je ne comprenais rien. Il m'a dit, Jean-Mathias, il m'a dit, perspective, information. OK? Et j'ai quand même j'ai eu la chance bénie, c'est pour ça que je disais vraiment, j'ai beaucoup de chance, hein, d'être payé, en fait, pour faire du décor, et en même temps d'être formé. Et là, le type m'a pris sous sa tutelle, et il m'a vraiment enseigné les règles de la perspective pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai morflé, j'ai vraiment pris, en fait, parce que c'était pas évident, mais alors il m'a cadré, et depuis, la perspective, c'est plus trop un problème, quoi. Bon, c'est sûr, c'est là, en fait, où je me dis, j'ai pas eu d'école, mais j'ai eu des formateurs. Et c'est ça qui est super, quoi.
Et puis c'est aussi ça qui est intéressant dans ta démarche, c'est que tu as écouté aussi ce qu'on a pu te dire.
Ah oui.
T'es pas resté sur, non mais mon dessin, il est fabuleux, et...
Non, alors vraiment pas. Ça, c'est ça. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de commencer ou qui dessine, et même en fait à tout âge, mais à n'importe quel moment, il faut toujours se dire qu'on est au début du chemin, quoi. Parce qu'on ne maîtrise jamais tout. Un truc tout simple. Je sais qu'aujourd'hui, je dessine bien mieux que je faisais il y a 10 ans ou il y a même 20 ans, hein. Mais par exemple, si on me dit, ah, tu pourrais me dessiner un dos comme il faut avec tous les muscles, tout ça. il me faut un modèle là, parce qu'il faudrait que je le dessine. Parce que j'ai pas la cartographie d'un dos avec tous les muscles. Ça, sincèrement, c'est un fait. Par contre, c'est vrai que si j'ai besoin d'avoir quelqu'un, si j'ai quelqu'un qui pose devant moi, oui, je vais pouvoir le faire. Il y a pas de souci là, je le dessinerai nickel. Mais c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours rester humble parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. De toute façon, dans tous les métiers ou dans quelle qu'elle soit la situation, on n'a jamais fini d'apprendre et on ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers. Donc d'une certaine manière, il faut rester toujours humble parce que c'est ça en même temps qui va faire avancer. C'est ça qui va, d'un seul coup, on va dire « Ah ben, je suis prêt à entendre, je suis prêt à avoir, à récupérer de l'information parce que c'est en ayant en fait l'information qu'on progresse finalement. Hein. »
Et qu'on avance.
Ah oui, complètement, oui.
Et si on regarde un petit peu en arrière, alors tu disais que tu as fait du dessin animé, est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dire? Tiens, moi j'ai fait des travaux là-dessus, puis qu'on pourrait par exemple regarder et dire, tiens, ça c'est Jean-Mathias Xavier qui a fait ça.
Oui, alors il faudrait quand même aller chercher dans les cryptes, parce que c'était il y a quand même plus de 20 ans presque.
Donc, le balbutiement de l'animation
voilà.
En France, quoi.
Donc ouais, voilà, c'est ça en fait. J'ai commencé, faut imaginer, hein, donc moi j'ai l'impression que c'était hier, mais quand j'y pense. Mais par exemple, le dessin animé qui était de Blake et Mortimer, par exemple, je faisais les décors sur la série Blake et Mortimer. J'étais aussi responsable décor et je faisais aussi les décors sur le dessin animé de Bob Moran aussi, qui était produit par Ellipse Animation, tout comme Blake et Mortimer. J'ai été aussi, par exemple, directeur artistique sur un dessin animé qui s'appelait Panchel World, qui était un dessin animé avec un petit panda avec des ailes qui vivait dans une espèce de paradis. C'était diffusé sur Tiji, je crois, un truc comme ça à l'époque. C'était il y a maintenant 18 ou 19 ans, quoi. Après, je me suis extrait en fait du dessin animé mort complètement. Et ça, j'ai cité que ces trois-là parce qu'il y en a plein. Oui. Hein, mais voilà, j'ai travaillé par exemple sur Sonic où je faisais du storyboard. Mais sur une vieille série de Sonic où il jouait de la gratte avec un groupe avec son frère et sa sœur qui étaient roses et son frère était orange. Donc et c'était produit au Luxembourg et on pouvait faire des scènes de vidéoclips. Donc et là, par exemple, c'est ça qui est génial, c'est que je n'avais jamais fait de storyboard de vidéoclip. C'est-à-dire que vous faites un storyboard de scénario, voilà, mais là d'un seul coup on me donnait la musique et là tac, il fallait que je dessine en fait
et que ça colle.
C'est-à-dire que j'écoute la musique, il fallait que ça colle, il fallait que ça soit dynamique et rigolo. Donc c'est plein de choses en fait qui sont super intéressantes, quoi.
Super. Donc ça a forgé ton dessin.
Oui.
Mais du coup, tu définirais comment ton dessin actuel? Parce que si je t'écoute, en fait, il y a du manga, il y a du Frazetta, il y a du comics, il y a du franco-belge, Blake et Mortimer. Oui. Comment tu définirais ton dessin? C'est un mix de tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça. On va dire, je suis un peu un espèce de enfant mutant, si on pourrait dire ça comme ça, une espèce de mutant du manga, du traditionnel, parce que j'adore, par exemple, toutes les scènes rigolotes d'action de Bully Bill ou des Schtroumpfs ou de Tintin. Vous savez, quand Tintin il se cogne avec le Captain Haddock et puis il y a des étoiles, des trucs comme ça et tout, par exemple. Enfin, ça me faisait toujours délirer, ces trucs-là. Je pense, par exemple, à L'île Noire, qui est juste génial, de Tintin. C'est l'un des meilleurs, en fait, Tintin, je trouve, qui est vraiment génial au niveau de l'humour, de la dynamique. Mais on a, à côté de ça, on va avoir, effectivement, Assassination Classroom ou Tenjo Tenge, hein, qui est complètement oufissime aussi au niveau du découpage. Au niveau comics, on a Alex Ross, c'est juste le boss, ou Jim Lee aussi, qui est un deuxième boss. Donc ça aussi, ça me rend humble, hein, parce que je suis là, je me fais ma BD, par exemple, où je fais de l'illustration, et les gens me disent « Oh, tu fais du super dessin !» Et puis je regarde ce que fait Alex Ross, et je fais « Ouais, ouais, quand même, quoi !» Donc mais voilà. Oui. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que oui, je me sens appartenir, en tout cas, dans cet énorme, en fait, il y a pas de cet énorme monde en fait de l'illustration, parce que finalement il y en a pour tout le monde.
C'est ça
qui est génial dans le dessin, c'est qu'il y a pas de mauvais dessin finalement. Il y a que des dessins qui s'assument
ou des dessins qui plaisent pas.
Voilà.
Alors, à partir du moment où un dessin plaît à son public, je pense que c'est ça qui
voilà.
est la réussite.
Mais en fait, pour que le dessin plaît au public, par exemple, si on prend les Rase Moquette, d'accord, ok, ou Bob l'éponge carrée, on peut pas dire que pour moi le design, par exemple, c'est pas la folie. Mais en même temps, je reconnais en fait qu'il y a vraiment une recherche dans la charte graphique et qu'il y a vraiment une recherche dans le style, puisque le style c'est aussi l'humour et qu'en même temps le style graphique va avec le côté déjanté des scénarios. Et donc du coup, quand je regarde ça, je me dis oui, ça fonctionne. C'est-à-dire, j'ai plus ce regard en train de dire j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire que c'est je peux pas en fait avoir ce regard-là comme ça. Je regarde le truc et je me dis bah, très bien, ça fonctionne parce que c'est Bob l'éponge carré et que il y a un univers, il y a tout ça derrière. Maintenant, on va me demander de faire Bob l'éponge carré, j'irai pas spécialement dedans. Hein. Donc voilà. Mais c'est ça qui c'est. Alors moi, je me définis juste comme un illustrateur. Et un illustrateur, ça fait des illustrations. C'est-à-dire dans le plaisir du dessin. Demain, si on vient et on me dit j'aimerais bien que tu me fasses des personnages dans le genre de Astérix chez les Indiens ou même les Indiens d'Astérix chez les Indiens, eh ben je ferai des personnages dans le genre là et ça va me faire marrer parce que justement je vais apprendre, je vais découvrir un style graphique et là c'est ça qui est super, c'est un peu comme un acteur. On lui dit bah tu vas jouer un méchant, il fait ça machin nanan et tout, tu vas jouer un gentil, alors le mec il est comme ça mais en même temps il a perdu sa femme, ou alors c'est un super héros, le mec il est increvable. Donc d'un seul coup, on est obligé de se mettre à l'intérieur. On prend le manteau, en fait. Et moi, dans un style graphique, je vais prendre un manteau et je vais me mettre dans ce style graphique et je vais vraiment évoluer dans celui-là et apprendre. Et c'est ça qui est super. Parce que d'un seul coup, waouh ! Je peux pas dire, oh non, moi, ce style-là, j'en veux pas. Il y a bien des trucs que je veux pas du tout faire. Voilà, mais ça, c'est et je le saurais. Mais d'une manière générale, on va dire, je suis pas quelqu'un de fermé sur les styles, sur le genre.
Ok. Et du coup, c'est un genre que tu as développé spécifiquement pour Space Kittens ou c'est venu tout seul ? Tu as commencé par de l'illustration, si j'ai bien suivi ?
Oui. Oui, tout à fait.
Alors, les Space Kittens. Raconte-nous, du coup, la genèse de Space Kittens.
Alors, les Space Kittens, en fait, avant que ça soit un album, c'était juste une idée, c'était un projet de dessin animé, d'abord, qui s'appelait Miss Féline et j'avais fait des personnages, en fait, assez rigolos. Donc, elle a évolué avec son petit frère et c'était une super héroïne, un petit peu truc classique, voilà, avec son petit frère qui se transformait aussi, tout ça, tout, tout. Et puis, le projet, en fait, finalement, n'a pas vu le jour parce que j'ai pas eu le temps de plus le développer que ça et c'est resté dans un carton. Et un jour, j'ai repris en fait le personnage de Féline, donc qui a une espèce de crinière pas possible, qui ressemble un peu à un lion, et voilà. Et j'ai fait un dessin avec une autre fille au-dessus d'elle, en train de rigoler, en train de faire la kéké. Et d'un seul coup, je me dis, tiens, c'est marrant, ces deux filles, elles sont vraiment rigolotes. Finalement, je vais transformer le truc autrement. Et c'est comme ça qu'est venu en fait le projet Space Kitten. Mais au début, c'était plus une espèce de délire que je me faisais, où je faisais des illustrations. C'était les Space Kittens, c'était chatons de l'espace, c'était des filles un peu marrantes, rigolotes, et qui comme mon frère en fait des vidéos de chats, quoi, finalement. Voilà. Y a pas une... Et puis, au fur et à mesure que j'allais avec mes posters et que je présentais ça en convention, puisque je faisais déjà des conventions avec mes autres livres que j'illustrais, puisque je faisais je travaillais pour des maisons d'édition et j'illustrais des romans, donc j'allais dans des conventions ou des salons de littéraires et je rencontrais du public et en même temps je vendais mes posters. Et dans les posters, il y avait des posters d'Space Kitten. Et le public m'a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi ce truc-là? Ça a l'air marrant, c'est trop mignon, elles sont super, elles sont chouettes et tout ça. Et quand est-ce qu'il y a une BD? Quand est-ce qu'il y a une BD? Et comme ça, pendant à peu près 15 ans. Donc au bout d'une quinzaine d'années, il a fallu que ça fasse son chemin parce que, vous voyez, j'ai quand même la tête dure, on va dire, comme ça. Et puis, il y a 2 ans, un peu avant le Covid, même 2 ans et demi, j'ai un ami qui m'a dit, mais Jean-Math, moi, si tu veux, je te soutiens et je t'aide en fait à monter le crowdfunding pour les Space Kittens. Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire parce que t'as une communauté, t'as des gens qui te suivent et je pense que tu pourrais faire une bande dessinée. T'as monté ta boîte, vas-y, on y va ensemble. Et là, je me suis dit, carrément, allons-y. Et puis j'ai commencé à bosser, à faire le truc et tout. Et puis quand on a lancé, on était en pleine pandémie, mais c'est pas grave. Et au final, ça a super bien marché. Mais c'est vrai que c'est comme ça que c'est venu. En fait, c'était une idée de finitude. Et au niveau du graphisme, disons que c'est presque naturellement que j'ai eu envie de dessiner ces petites poupettes avec un style manga. Voilà, j'avais envie de dessiner des filles rigolotes. Mais parce que, en même temps, le style manga vient aussi être très animable. Et assez. Bien sûr, il y a des mangas assez compliqués, hein, je pense à. Où vraiment le type, il va.
Gushi, par exemple.
Voilà, on est d'accord. Mais par contre, il y en a d'autres où le dessin est plus léger, plus fin. Et donc, et c'est vrai que je voulais quelque chose qui soit dynamique. Et je veux pas quelque chose qui soit pesant, lourd. Et pour des filles chats, c'était rigolo de trouver un design comme ça, quoi. Donc, voilà. Mais elles ont quand même changé de look et elles ont eu le temps d'évoluer hein, aussi. Elles n'étaient pas complètement dans la base, elles sont les mêmes, mais voilà quoi.
C'est un instant en fait, c'est elles qui sont venues te chercher
oui.
Et qui ont conquis un public en te convainquant en fait qu'il fallait leur donner vie.
C'est un peu comme les chats en fait, hein. C'est ça. Les chats, c'est eux qui vous choisissent. Ils viennent, ils font miam miam miam, miam 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 miam, et puis là vous faites oh, trop mignon, tac. Moi ça a été pareil. Je les ai trouvés rigolotes et puis oui. Et finalement le public, c'est marrant parce que dès que j'ai commencé à appeler ça les Space Kittens, il y a eu plein de gens qui m'ont dit c'est génial comme nom, c'est trop marrant et tout. Puis certains me disaient c'est marrant, ça me fait penser au Cosmo Cat. Et puis je disais bah ouais, mais en fait moi c'est les chatons de l'espace. Il y a les chats du cosmos et moi c'est les chatons de l'espace. C'est plus drôle et c'est plus fun. Donc voilà.
Ah, c'est moins bagarre. Hein.
Ah oui, bah oui, bah disons que ils en font un petit peu, mais je voulais surtout raconter une comédie rigolote et il faut que ça soit une fraise tagada quoi. Même des fraises tagada, c'est le truc qu'on c'est le, vous savez, c'est un peu le bonbon quand on était gamin en fait et qu'on mange, c'est sucré mais en même temps c'est un peu acidulé et on trouvait ça marrant parce que ça fait pshh comme ça dans la langue et on trouvait ça rigolo, enfin peut-être pas tout le monde hein, mais d'une certaine manière il y avait ce côté un peu rigolo quand on mangeait des bonbecs avec les copains et qu'on rigolait. Bah c'est un peu en fait ce que j'ai voulu aussi retrouver avec les Space Kittens et développer. D'ailleurs c'est pour ça que j'assume entièrement tous les clins d'œil, les références aux séries que je regardais, Ranma & Mimi, Nicky Larson, Les Chevaliers du Zodiac, Goldorak, Albator, tout, vraiment, il y a plein de références qui sont complètement cachées, même les Cités d'Or et tout, c'est assez rigolo d'ailleurs justement, parce que on pourrait lire et relire et relire 5 fois au moins le bouquin et on trouverait à chaque fois des petits détails, des petites choses et tout ça, même des gestuels, des personnages parfois.
C'est ça qui rend vivant en fait et qui permet aussi d'avoir... Ben, plusieurs publics. Il y a les gens qui vont avoir cette nostalgie, qui vont identifier ces petits clins d'œil, et puis il y a le nouveau public qui va pas forcément les avoir et qui va peut-être les redécouvrir au fur et à mesure.
Ah ben, complètement. Et puis même le jeune public, il va quand même s'y retrouver dans les scènes et les dialogues et les situations complètement loufoques et cocasses de Leroy qui est complètement perdu avec Jean et Féline qui viennent quand même chez lui et mettent un sacré bazar dans sa maison quand même.
Alors là, tu lances ma prochaine question quand même. Oui. Je voulais te poser la question de savoir si le scénario était venu avant le financement ou t'as commencé à te dire on va faire un financement et le scénario je le fais en fonction.
Alors le scénario a évolué, mais c'est vrai qu'il y a eu un premier scénario qui a été fait il y a assez longtemps avec Stéphanie Gaza qui était une copine et qui est toujours une copine d'ailleurs hein. elle est toujours une copine et donc avec Stéphanie on avait développé le premier scénario il y a près d'une dizaine d'années quand même, hein. Donc parce que j'avais déjà l'idée. Mais le problème, c'est qu'il fallait trouver le temps et il fallait s'y mettre. Et on avait développé un premier scénario et puis on l'a laissé de côté parce que la vie fait en sorte qu'il y a les enfants, il y a tout un tas de trucs, bref, voilà. Et puis il n'y a pas que les enfants, il y a le boulot, beaucoup de travail. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, je vis quand même de mon travail, donc de mes illustrations et de la réalisation des bandes-annonces, donc, ce qui est très intéressant. Et donc on procrastine un petit peu. Voilà. Et puis, il y a plus des projets super intéressants qui arrivent. Donc, on se dit, bon, ça viendra un de ces quatre et tout ça. Et puis, en fait, là, avant de faire le crowdfunding, je suis retombé dans le scénario parce que le projet montait. Et c'est vrai que j'avais déjà une grosse partie du storyboard, mais le scénario a quand même été vachement révisé pour qu'on puisse avoir encore plus de qualité, de rebondissement, parce qu'un scénario d'il y a 10 ans n'a pas les mêmes ressorts et les mêmes aboutissants, on va dire, qu'un scénario actuel. Et donc, ça m'a permis aussi de revenir dessus, les dialogues et tout ça, et tout. Donc, il a bien transformé, ouais, quand même.
Et est-ce que tu peux, du coup, nous dire de quoi ça parle ? Moi, j'aime bien laisser les auteurs présenter eux-mêmes leurs albums, parce que les mots sont certainement beaucoup plus efficaces.
Oui. Bah, en fait, il faut déjà...
Moi, c'est plus difficile à faire.
Non, pas du tout, en fait. C'est rigolo parce que j'aime bien cette idée, en fait, de Space Kittens, c'est que c'est la rencontre et la rencontre de l'autre. Donc, c'est vraiment, ça tient là-dessus, hein, finalement. Et c'est toujours cette histoire d'entente, après. Qu'est-ce qui va se passer ? Et au travers d'une aventure fantastique science-fiction, c'est plutôt d'abord, comme je disais tout à l'heure, une comédie. Et donc, c'est ce gamin, Leroy, qui a à peu près, on va dire, 15-16 ans. Et donc, qui, lui, est super sérieux, presque un peu trop, même rigide, droit dans ses bottes. Et puis, ses parents, sachant qu'il est comme ça, ils se disent, bon, bah, c'est bon, on peut partir en vacances, tout ça et tout. Il peut faire sa rentrée tout seul, il n'y a pas de problème. Mais quand même, on va lui mettre quand même pour que... Parce que sinon, il va être trop focus sur son ordi, sur ses travaux, tout ça, machin. Il faut quand même lui trouver du monde qui va loger dans la maison avec lui. Et donc, les parents lui mettent des colocatrices. Les parents ne savent pas en fait que les colocatrices sont des extraterrestres parce qu'elles ont caché leur identité. Elles arrivent et elles, en fait, elles ont étudié les humains au travers de l'audiovisuel en fait humain. Donc elles ont capté les émissions et donc elles arrivent et elles se font passer pour des humaines. Donc lui, Leroy, il se dit il y a deux super nanas qui viennent chez moi, donc il tombe un peu du haut de l'armoire. Il est très étonné. Et puis, en même temps, il se rend bien compte qu'il y a des trucs qui collent pas, parce que c'est pas en étudiant juste la télévision des humains qu'on va savoir comment est-ce qu'ils vivent. Et donc, il y a plein de choses qu'elles ne comprennent rien, elles ne comprennent rien aux humains, et lui, il comprend rien aux filles. Donc déjà là, il y a un gros clash. Donc, et puis, il y a un truc, c'est qu'elles arrivent avec leur pseudo-chat, qui est quand même violet, quoi. Et le chat, alors au début, en plus, le chat, de base, il a une orbe de parole. Alors, une orbe de parole, c'est une petite sphère qui est au-dessus de sa tête qui lui permet de parler. Et le chat, lui, il a étudié, en fait, pareil, les émissions audiovisuelles des humains en regardant des films avec des accents russes. Il trouvait ça très rigolo parce que les Space Kitten trouvent que tout est drôle. Et c'est plutôt la funitude. Donc, et lorsque le chat se met à parler, il va parler avec un accent. Et seulement, les filles lui ont enlevé l'orbe de parole et le chat ne parle qu'avec des gestes. Au début, un peu comme Harpo Marx et puis même ou le muet de Zorro. Donc, c'est assez rigolo, mais... Le gamin, il regarde ça, il se dit, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi ce chat, il fait des gestes, c'est bizarre, il est violet. Donc, il voit bien qu'il y a des choses qui ne collent pas. Mais comme il ne s'attend pas à avoir des extraterrestres, pour lui, il continue à avancer vaille que vaille, en fait, dans cette rencontre et dans cette situation avec ces deux filles qui vivent chez lui et qui lui mettent un sacré bazar. Parce qu'il faut imaginer, lui, il met les choses bien rangées et elle fout le bazar. Hein. Donc, elles ne comprennent rien, par exemple, à la douche, aux toilettes, à faire à la cuisine ou des choses comme ça. Donc voilà. Et c'est là où il va y avoir des situations plutôt rigolotes, parce que nous, on sait, et c'est ça qui est toujours intéressant dans une comédie, c'est que le lecteur ou l'observateur sait, en fait, le secret, et il rit, en fait, finalement, que le héros, lui, ne sait pas, en fait.
Le lecteur est complice, voilà. En fait.
Ben, c'est ça, en fait, et on s'amuse, c'est un petit peu comme la caméra cachée, quoi. Voyez, et donc c'est ça qui est marrant dans la caméra cachée. Et donc on joue en fait là-dessus. Et moi, c'est ça qui m'amuse aussi, c'est de regarder en fait et de mettre en exergue justement ces problématiques qu'on va avoir en fait dans la compréhension des uns et des autres. Et qu'au final, quand on arrive à pouvoir bien s'entendre, parce que c'est ça aussi que raconte l'histoire, quand on fait des efforts et qu'on a envie finalement parce que on est plutôt ouvert, eh ben on arrive à pouvoir s'entendre et pouvoir vivre les uns avec les autres. À l'inverse, dans notre histoire des Space Kittens, il y a l'Empire du M qui lui veut capter l'énergie vitale des êtres humains et qui veut absolument l'absorber. Et donc, pour conquérir les autres planètes, en fait, qui sont sous l'égide des Space Kittens. Et donc, l'Empire du M, lui, il va envoyer son agent 7269, qui est une espèce d'homme calamar, qui n'a absolument rien à voir, en fait, avec les Space Kittens. Elles sont plutôt, voluptueuses, dynamiques, aériennes. L'autre, c'est un truc carapassonné, quoi. C'est un tank sur pattes. Et donc, il va y avoir, évidemment, une confrontation avec 7269 et qui réagit un peu comme un espèce de robot qui est droit dans ses bottes et qui va jusqu'au bout de sa mission. Et on va se retrouver avec cette situation en fait qui va monter crescendo et parce qu'il en faut un petit peu aussi.
Oui, pas que de l'humour
voilà.
Quand même.
Bah non, voilà. Disons que dans une comédie, il y a toujours un moment, il y a le climax qui ah mon dieu, est-ce que ça va y arriver? Tac, et finalement ça se finit bien quand même. Voilà. Mais c'est le tome 1.
C'est le tome 1.
Oui.
Parce qu'il y a un tome 2 qui va venir.
Oui. Le 3 février.
Subtile transition. À 3 ouais. Février, alors, le 3, alors, très,
non,
très
le 3 février, c'est le 3 février, c'est pas le tome 2. C'est le. Si je peux me permettre.
Ah, mais permets-toi.
Voilà, si je peux me permettre. Le 3 février, c'est le.
C'est l'instant promo.
Voilà, c'est l'instant promo. Donc voilà, le 3 février commence la contribution sur Ulule du tome 2 sur des Space Kitten tome 2. Voilà. Et on peut déjà, en fait, acquérir le tome 1 au travers de sur space-kitten.com. Et donc, si on veut l'acheter. Et puis sinon, on peut aussi attendre le début, en fait, de la campagne Ulule. Puisque tout le premier Space Kitten a été financé sur Ulule. Or, ça marche d'une manière assez intéressante. C'est un autre moyen de diffusion aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années. Alors, si je peux me permettre un petit peu de parler de ça aussi.
Vas-y, je t'en prie.
Parce que c'est aussi une démarche, en fait, de vouloir. On dit, ah, ben, tu t'es auto-édité. Alors, déjà, non, parce que quand on s'auto-édite, c'est qu'on est un particulier et on fait un livre. Moi, je l'ai fait au travers de ma société. Donc, c'est pas du tout la même démarche. Et puis, dans ma société, j'ai aussi les statuts d'être éditeur. Donc, c'est aussi cette manière-là aussi de le faire. Et puis, je considère que Ulule est un moyen de diffusion. C'est une autre manière, c'est une diffusion à contribution. Donc ça veut dire que les gens, s'ils aiment le bouquin, bah, ils l'achètent à l'avance et ils le reçoivent. Donc ils achètent un projet, ils disent ah bah ouais chouette, je vais le voir. Un petit peu comme, on va dire, bah en fait non, bah, pas un petit peu comme, c'est tout simple. Hein, c'est vous avez envie de précommander une BD parce que vous avez envie de la voir, bah vous la précommandez, vous allez la recevoir. Après vous aimez pas, bah voilà. Mais ça c'est un petit peu comme quand on achète le livre, qu'on achète la BD déjà faite. Hein.
Toute donc, petite différence, c'est que souvent la précommande, la BD, elle est déjà finalisée. Alors qu'il y a des projets Ulule qui sont en cours de finalisation, ou c'est pour essayer d'accompagner la finalisation.
Oui, ça veut dire qu'on soutient en fait l'idée du projet. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est vrai que pour le tome 2, j'ai tout le scénario déjà qui est écrit, j'ai déjà des pages en fait qui sont déjà faites, le storyboard en partie, mais la BD n'existe pas encore. Donc, et c'est là en fait où justement l'appel à la contribution, ça permet de entièrement financer grâce aux contributeurs et grâce aux personnes en fait qui viennent en fait sur la plateforme, donc de pouvoir financer le reste de l'édition de la bande dessinée. Parce que ça coûte quand même des sous hein, quand même hein, tout
oui,
ça.
Hein. J'imagine.
Donc, là, par exemple, pour le tome 1, si on parle un peu d'argent. Donc moi je suis tout à fait relax avec l'argent. Il y a pas
oui,
de problème
la transparence.
Voilà.
Oui.
Donc par exemple sur la campagne du premier volume, on est allé chercher 18 000 euros. Okay. Donc les contributeurs, ils sont allés. Alors il faut savoir que les gens donnent ce qu'ils veulent. Hein. Au niveau de base, ils achètent la BD, mais après s'ils veulent plus,
il y a des paliers qui peuvent
avec
être
des paliers,
faire,
des comme si vous achetiez un DVD simple ou un DVD collector ou l'ultra collector. Voilà, c'est le même principe. Donc voilà. Alors quand c'est super collector, vous avez des statues, vous avez des posters en plus, une super dédicace de malade, tout ça machin et tout. Donc voilà. Donc les personnes ont contribué. Et il faut savoir que le principe de Ulule, c'est que il y a une contrepartie qui on part en fait sur 18 000 euros. Donc on a besoin de 18 000 euros. C'est-à-dire que si la campagne se finit et on est à 15 000, ben tout le monde est remboursé.
Et le projet se fait pas.
Et le projet se fait pas. C'est-à-dire que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit un jour, mais oh, c'est pas grave, si t'as pas de travail 18 000 euros, tu pourras quand même essayer de financer avec ce qui te reste. Je dis, ben non, s'il n'y a pas.
Ça, c'est calculé à la base, il y a une enveloppe.
Ah, bien sûr.
Voilà.
Et puis en plus, je vais pas vous mentir, c'est que je l'ai pas fait, quand je dis je l'ai pas fait en auto-édition, non, parce qu'en fait, j'ai une équipe, j'ai un directeur de production, j'ai quelqu'un qui s'occupe du site internet, j'ai un suivi en fait de communication, j'ai quelqu'un qui me fait toute la nomenclature en fait de la chaîne, en fait, vraiment de production et en même temps de financement en fait Ulule pour réellement savoir si on rentre dans les frais ou pas, et on calcule tout ça. On ne se dit pas, tiens, j'ai besoin de 18 000 euros comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut avoir fait tous les devis, de toutes les cartes, la BD, le papier qu'on va choisir, le poids du livre, l'envoi aussi des colis, parce que c'est ce qui coûte le plus cher finalement. Un envoi de colis coûte plus cher que le livre lui-même. Bref, voilà. Et donc, tout ça, en fait, réuni, bah, ça ramène 18 000 euros. J'ai eu la chance énorme, c'est que l'année dernière, on a atteint 122%, soit 22 000 euros. Donc c'était
super.
Génial. Ah oui, on était super contents, on a fait on était ultra contents, on est rentré dans nos frais. Donc voilà, et puis bah cette année ben bah, en fait on repart en fait sur une nouvelle campagne puisqu'on veut essayer de sortir, puisqu'on dit on c'est toute l'équipe hein. Mm-hmm. Parce que il y a pas que moi, il y a la coloriste, il y a la personne qui fait la maquette, tout ça machin et tout hein. Donc voilà, et on veut pouvoir essayer de pareil sortir un livre tous les ans, un nouvel album.
OK, il voilà, y a déjà
112 pages.
Il y a un nombre déterminé déjà d'albums prévus.
Quatre albums. Aujourd'hui, je suis à 4 albums. Après, c'est pas impossible qu'il puisse y avoir une fin ouverte suivant en fait le succès et comment ça se passe. On verra bien comment ça va se passer. Normalement, c'est exponentiel parce que lorsqu'on fait une première campagne et qu'on l'a réussi, la deuxième, normalement, est mieux. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, puisqu'on gagne en notoriété. Puisque à la fin, en fait, en septembre-octobre, lorsque j'ai reçu les livres, j'ai commencé à faire une petite tournée de quelques salons avec la BD. Qui a été reçu mais de ouf, ça a été génial, dont le salon
Angers BD, du coup,
Angers BD, ouais. Et je salue bien toute l'équipe d'Angers BD qui m'a accueilli, et vraiment ça a été super super génial en fait d'être là-bas, et j'ai eu un accueil formidable. Et quand sur un week-end on vend beaucoup de livres et que j'ai pas arrêté de dédicacer, au tel point pour la première fois de ma vie j'avais mal à l'épaule.
Ah. La petite tendinite de fin de festival.
Légère, hein, quand même. Hein. Ça veut dire que j'ai quand même pas mal. Mais j'étais pas déçu. Hein. Je me suis dit, ah, c'est bien. Non, ça veut dire que j'ai bien bossé. Hein. Parce qu'à faire une dédicace toutes les 5 minutes, croyez-moi que pendant 2 jours, ça fait quand même beaucoup de livres.
Bah, ça valait le coup aussi bien pour toi que pour les lecteurs.
Hein,
parce
ouais,
je peux vous assurer que les dédicaces sont vraiment classe.
Bah, en plus, alors c'est vrai que si on peut parler des dédicaces, c'est un truc qui est génial. C'est que moi, je me suis amusé. C'est que Je l'ai fait avec un crayon magique. Le crayon magique, c'est une mine en fait qui a 4 ou 5 couleurs dedans. C'est-à-dire qu'on a du bleu, du jaune, du rouge et on va avoir du vert. Et donc au moment en fait on est en train de dessiner, la couleur du trait de crayon change. Et ça donne un effet un peu genre waouh. Et puis ça va amener ce côté comme un feu d'artifice. Moi, quand je suis en train de dessiner, évidemment. Mmh. Donc, ça amène aussi ce côté aussi très coloré que les Space Kittens ont, parce que elles sont fans de Bollywood. Donc voilà, elles trouvent que c'est assez rigolo les films de Bollywood et tout ça, et tout. Donc,
et ça marche très bien. Hein.
Et ça marche super bien pour ce type de dédicace. Parce que ça aussi, c'est intéressant. C'est que lorsque je fais une dédicace pour les Space Kittens ou d'autres livres, il y a aussi ça, en fait, à l'intérieur, dans ma tête. Je me dis, tiens, c'est marrant, il y a une création, en fait, qui va se faire. Et donc, la dédicace va être vraiment personnalisée au type ou au style, en fait. Du bouquin.
Ok, ça c'est cool.
Ouais, ça donne une petite particularité quoi.
Un petit point qu'on n'a pas abordé, c'est tes méthodes de travail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent sur du numérique beaucoup, il y a des gens qui sont très attachés au traditionnel,
oui.
Il y a de l'entre-deux. Comment tu travailles toi ?
Eh bien, disons qu'en fait, il faut savoir, c'est que tout le storyboard est fait en traditionnel. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un storyboard sur une tablette numérique, c'est pas possible. Donc j'ai un petit carnet de A5 et dans lequel je vais écrire d'abord tout mon scénario et puis après dans mon scénario, je vais créer une marge sur laquelle je vais déjà commencer à griffonner des petits, mais ça vient du dessin animé, à griffonner des petites cases, des petites choses, des petites idées, des choses comme ça à certains moments de certaines scènes parce qu'elles viennent tout de suite au moment où je suis en train de les lire. Parce que même déjà quand je suis en train de les écrire, elles viennent toutes seules, alors du coup je les écris après. Alors quand j'ai déjà dessiné tout ça dans la marge, après je vais dessiner le storyboard de ma bande dessinée, donc sur un petit livret, et ensuite je vais passer en numérique. Alors il faut savoir que pour la première bande dessinée des Space Kittens, il y a une grosse partie qui a été faite en traditionnel parce que je voulais retourner un petit peu aux sources aussi du dessin, mais force est de constater, c'est que le problème qu'il y a, c'est que c'est pas tant soit peu le dessin qui était difficile, c'est le fait de scanner le dessin et de nettoyer les planches après.
Ouais,
et là, on prend un temps, mais de ouf. C'est juste un parce que le dessin, moi, je le fais, je suis content, il est propre et tout ça, mais dès qu'il est scanné et qu'après on le regarde sur Photoshop ou sur un autre logiciel, hein, et là, d'un seul coup, on voit toutes les moirures, les machins, les pètes, les trucs et tout. Et là, et puis il faut assembler les feuilles. On est devenu fou avec ça. Avec mon assistante, on s'est dit non, mais c'est pas possible, quoi. C'est... Donc, on s'est dit bon. J'ai recherché sur plusieurs logiciels et donc j'ai trouvé un logiciel qui est vachement bien qui s'appelle Sketchbook qui est édité chez Autodesk avec lequel je travaillais déjà et j'ai trouvé en fait vraiment j'ai paramétré une mine de crayon avec un algorithme bien spécifique tout ça machin et tout pour retrouver la sensation et le style graphique que je pourrais avoir en fait en dessinant sur une feuille. Alors c'est vraiment très compliqué parce que ça demande aussi que ma mine de stylet informatique soit en carton et soit pas en plastique.
Okay.
donc c'est du carton compressé. Donc, et en plus, je fais en sorte de la limer un peu avec un petit gras de papier, là, vous savez, qu'on utilise en fait parfois pour les crayons aussi d'ailleurs. Mmh. J'utilise ça aussi parce que ça me permet en fait d'éroder un petit peu en fait la mine en fait du stylet de manière à ce qu'elle ne soit pas trop lisse et qu'elle frotte un petit peu sur la plaque. En fait, de la tablette numérique.
Ah, pour donc, retrouver une sensation.
Pour
crayon,
retrouver
quoi.
Cette sensation, en fait, vraiment du vous savez, le petit freinage parfois en fait du crayon en fait sur la feuille. Donc ça, comme ça je le retrouve.
Plus au dessinateur parce qu'effectivement.
Voilà. Mais c'est des trucs en fait qui sont vraiment très spécifiques parce que même si un stylet est très pointu, vous avez tout ce truc, ça reste quand même un algorithme informatique qui va calculer ce que vous êtes en train de faire. Alors que quand c'est moi direct avec la feuille, c'est ma pression de main,
c'est ma tête,
c'est mon crayon, mon carbone qui touche la feuille, je sais ce que je suis en train de faire. Là, c'est un ordinateur qui calcule. Donc il pourra calculer, c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que je puisse me rapprocher au maximum et donc la meilleure façon de le faire, c'est que je puisse réussir à trouver le système. Et vraiment, je me suis creusé la tête pour ça. Là aujourd'hui, je suis assez content parce que je retrouve on va dire à 98% cette sensation, en fait, quand je suis en train de travailler sur tablette. Et au final, il n'y a plus de différence, quoi. Ça va, je suis plutôt content parce qu'il n'y a pas de différence. Et je garde, en fait, mon traité crayon et tout ça et tout sur le alors que je fais en numérique. Et je gagne du temps en même temps, quoi. Parce que faire un album de 80, maintenant 112 pages en un an, on sort les rames.
Ça demande un rythme.
On sort les rames là. Là, on sort le moteur et on y va comme des oufs. Donc voilà, c'est un rythme assez soutenu parce qu'en plus, je continue de travailler pour d'autres maisons d'édition en même temps, hein. Flammarion, Bayard, voilà, les éditions Léa, bref, tout ça. Donc, et eux, ils sont contents que je travaille avec eux. Donc,
il faut que ce soit fait dans les temps aussi.
Il faut aussi que ça soit livré. Donc voilà, mais en même temps, c'est génial parce que je me fatigue pas et je ne démords pas. En fait, je suis toujours là, hein, toujours à être dans le je sais pas comment se parler, je suis toujours chaud, quoi.
Bon, alors on arrive à la fin de l'interview, parce qu'on a un petit peu débordé, mais c'était tellement intéressant de t'écouter parler. On redonne éventuellement le rendez-vous pour le financement participatif.
Le 3 février, les Skitten tome 2 sur Ulule. Et sur la plateforme participative Ulule, donc ulule.fr ou .com, je ne sais plus si c'est
dans ça doit être .fr,
je crois. .fr, je crois, ouais. Et c'est avec plein de... Alors, il y aura bien sûr, évidemment, la BD, le pack de rattrapage, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc tome 1 et tome 2, on peut acheter les deux. Et en plus, il y aura un marque-page qui sera offert, qui sera imprimé double face, avec une carte postale en plus, plus un tamponnage et une signature, donc au nom, donc dédicacé. Et puis ensuite, il y a aussi, évidemment, pour ceux qui connaissent déjà, le tome 2 avec plein de goodies rigolos, sympas, chouettes. On a là cette fois-ci changé encore par rapport à l'année dernière, histoire de ne pas offrir les mêmes choses, hein. Ça aussi, il faut se creuser la tête pour trouver des nouvelles idées, des choses qui soient appétissantes et alléchantes. Donc le 3 février sur Ulule, rendez-vous pour commencer en fait la campagne d'Space Kitten tome 2 et faire la grosse fête de folie, quoi. Donc voilà.
Eh ben, j'espère que ce sera une fête de folie, effectivement. Merci Jean-Mathias Xavier.
Merci beaucoup Seb.
Je vais, tu vas rester avec moi pour les 9 minutes qui restent. Moi, avec je voulais en faire une petite chronique de La Briette Chimérique, Ultime Renaissance, de Lehmann, de Canva et Lou aux éditions Delcourt. Tu connais ou pas?
Ça me plaît bien. Ça
alors, Jess, de mémoire, les anciens, il y a quelques... Ils n'ont pas tous travaillé sur la première partie. Ce sont des scénaristes qui avaient publié aux éditions La Talente une série d'ouvrages sur les super-héros de l'ère du radium. C'était, ils avaient fait des personnages et toute une thématique qui s'appelait du coup La Brigade Chimérique. Et à la fin de la série La Brigade Chimérique, il y a un événement qui fait qu'on les a oubliés. Et de nombreuses années plus tard, en fait, de nouveaux événements impliquent des créatures ou des gens avec des super-pouvoirs. Et y a un groupe de personnages qui va essayer d'aller chercher ces héros de l'ère du radium pour les aider à lutter contre ces nouveaux ennemis, en fait, ces nouveaux super-vilains. C'est une BD qui est hyper intéressante.
C'est un beau volume.
C'est un beau volume avec... je ne tacle pas la personne qui l'a fait. Il y a une jaquette. Je vous invite à l'enlever parce qu'effectivement, elle est belle, je trouve. Mais je trouve que le travail sur l'album en lui-même, avec un dos toilé qui va jusqu'à peu près au tiers de l'album, est encore plus joli.
C'est clair.
Et c'est vrai que la jaquette, même si je trouve le travail bien fait, la contre-plongée qui donne vraiment
envie. Le dessin donne envie, oui.
Travail sur l'album en lui-même est vraiment encore plus beau. C'est un ouvrage qui est quand même assez massif parce que j'ai pas fait le compte de pages, mais on est sur un bel ouvrage de.
Et c'est une réédition, c'est ça?
Alors non, c'est une suite.
Ah oui, d'accord, ok.
Il y a 260 pages.
Waouh.
Un ouvrage qui devait être plus court à la base parce que le projet avait été proposé aux éditions La Talente de créer une suite à La Brigade Chimérique qui ne s'était pas faite. Et du coup, là, ils ont refait cet ouvrage-là qui est une vraie suite, beaucoup plus complète. Il y a vraiment une histoire sur l'héritage. Le dessin est très intéressant. On a une évolution des personnages qu'on peut avoir connus. Habitués aux histoires de super-héros vont retrouver ces choses-là. Il y a des personnages qui vont avoir évolué d'une certaine façon. Il va y avoir des héritages qui se sont créés, des successions ou des passages de pouvoir. On a vraiment toute cette histoire de super-héros mais telle qu'on a pu la connaître. Il y avait les éditions Lug qui faisaient du super-héros à la française. Puis il y a des petits clins d'œil aussi aux super-héros français tels qu'on peut les avoir, des super-héros modernes comme le Garde Républicain, Foxboy, auxquels on fait des clins d'œil dedans, et ça rend l'ouvrage encore plus passionnant, encore plus palpitant. Et vraiment, c'est une belle histoire avec beaucoup de monstres.
Ouais, ça donne envie, hein. Et ouais. Je viens de regarder un petit peu, et franchement, c'est bien gratté, hein.
Ah, il y a vraiment aussi, de belles choses.
Et puis c'est bien découpé.
Ils ont essayé de s'inspirer vraiment de la partie comics et de garder ce dessin si particulier, en fait, parce qu'il y a, oui, y a un côté très très anguleux, en fait, sur ce dessin-là, qui fonctionne super bien. Ouais, une vraie belle découverte, et du coup, moi, c'était un coup de cœur, même si il est resté sur la table comme ça, parce qu'effectivement, la jaquette me tentait moins. Et quand je l'ai ouvert, j'ai fait non, mais la jaquette, elle va pas rester sur les étagères.
Ouais.
Ça, c'est clair. Enfin voilà, pour ceux qui veulent le découvrir, c'est La Brigade Chimérique, Ultime Renaissance, de Serge Lehmann, Stéphane De Canva et Lou, tout court. C'est publié aux éditions Delcourt. Il doit y avoir un intégral qui a été publié aux éditions Delcourt, je ne veux pas dire de bêtises. Et les albums précédents étaient publiés aux éditions La Talente, une maison d'édition nantaise qui est connue pour tous les romans qu'ils ont fait sur les Annales du Disque Monde, oui, pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui.
Allez lire, ça c'est super bien aussi. Enfin voilà, quoi. C'est plutôt pas mal. Parce que je vais pas vraiment avoir le temps de parler de beaucoup de choses. J'avais Fangs, Crow en français, de Sarah Anderson. Je sais pas si tu connais.
Ah non, pas du tout.
C'est une autrice américaine qui fait des petits strips qui s'appelle Sarah Scribbles, et c'est des petits trucs qui sont très rigolos. C'est toujours assez court. Et là, encore une fois, les éditions 404, elles ont fait un petit album en rouge. Avec un peu de texture et puis une impression à chaud dessus qui fonctionne vraiment bien. Et on suit le quotidien d'une vampire qui est amoureuse d'un loup-garou. Et du coup, on est très très loin, en fait, de Twilight. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus drôle. Il y a des passages. C'est un humour, je sais pas comment le qualifier. C'est pas un humour où vous allez vous taper les cuisses, mais il y a une subtilité, il y a un peu de. Je sais pas, de romantisme, en fait, là-dedans, qui fonctionne très très bien. Ah, je te l'ai pas passé, mais c'est
presque un peu british, tu veux dire ?
Ouais, complètement même. Même avec des petites blagues qui sont assez subtiles, qui sont assez fines, et puis des blagues qui sont complètement potaches, mais qui marchent très très bien. Bah, c'est le style de Sarah Anderson, et si vous connaissez pas, c'est allez la voir. Si vous cherchez des choses avec de la couleur, par contre, oubliez, parce qu'elle ne fait que du noir et blanc, et c'est pas un dessin qui a l'air il a l'air un peu gribouillé, c'est pas un dessin qui est hyper travaillé, mais qui marche très 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 bien.
Ouais, c'est efficace, c'est ça qui est important, c'est que le message passe, et
c'est
là
ça.
Je regarde les dessins et c'est vrai que c'est chouette, hein. C'est subtil.
That's all, folks.
Vous venez de l'entendre, c'est pour qui annonce la fin de l'émission. On se retrouve dans 15 jours avec sans doute un autre invité pour faire une autre interview. J'aime bien ça, moi, voir des gens qui racontent et qui parlent de leur travail. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée. On va vous laisser avec des gens qui vont vous mettre un gros bazar, que ce soit audiophonique ou autrement, mais j'espère que vous avez couché les enfants.
En tout cas, merci Seb. Hein.
Mais merci à toi, Jean-Baptiste, cool. Xavier. Vous pourrez nous retrouver dans quelques instants sur le podcast de l'émission, sur www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je rappelle vite fait le concours dans quelques instants. Et puis on se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je vois de ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. On ne chez toi.
Radio G 101.5 FM.